Bon, alors, t'en as glissé un mot tantôt, mais c'est vrai que le ciel boursier est assez gris et on aimerait ça que tu nous dises pourquoi.
Il y a un analyste de Bank of America qui donnait une analyse intéressante, puis il disait, écoutez, dans les trois prochains mois, là, il y a des gens qui vont se désaffecter, qui vont s'enlever du marché des actions, puis il y a une possibilité pour des gens qui ont des titres risqués dans cette période-là d'avoir une opportunité d'achat. Mais, les gens vont dans les obligations, dans l'or, on sort des actions. Donc, il y a un indicateur des trois prochains mois qui a cette réalité-là. Mais en 2020, attachez votre sucre, là. Vous avez fait avec le S&P 500 17% en 2019 jusqu'à date. Oui, on a rattrapé la baisse l'année d'avant, mais quand même, les gens ont ce sentiment-là qui atteignent le fameux seuil psychologique dont je parlais cette semaine, 2900, 3000 points sur le S&P 500. Et là, il dit, attendez une minute, là. Regardez 2020. Regardez ce qui change. Okay? Dans les années 2010 à 2020, on était centré sur les humains. Maintenant, on va parler de robots, de robotisation. On parlait beaucoup de la réalité masculine maintenant. Les droits des femmes vont prendre le dessus, hein, les femmes en affaires et tout ça. Donc, l'espèce de changement de paradigme, donc augmentation de salaire. Les riches, on en a parlé beaucoup. Maintenant, on va parler de retour de l'argent aux plus pauvres. On parlait de déflation, là, on va retourner à l'inflation. On parlait des taxes ou des impôts bas, là, on veut augmenter. On va parler de protectionnisme. Hein. On a parlé de mondialisation pendant des années et là, les États font des mesures protectionnistes. Donald Trump est un exemple. On concentrait la vie sur les États-Unis. Maintenant, on regarde des marchés émergents ailleurs. Donc, les entreprises qui sont maintenant très endettées donnent des signaux que c'est quoi la fin. Et il y a un monsieur qui s'appelle Michael Burry. Là, les gens disent, c'est qui ça? Ça, c'est le gars qui est comme la vedette réelle dans le film The Big Short. Lui, il avait gagé sur l'effondrement des titres adossés à des actifs lors de la crise de liquidité et il a fait fortune. On en a fait un film et lui, il avait vu ça venir. En tout cas, il avait parié là-dessus, disons. Et là, il dit, là, on a un gros problème dans le marché.
Mais là, attends un peu, là. Je suis pas sûr que je te comprenne.
Vas-y.
Ce que tu me dis, là, c'est que, comme je prends l'exemple 2010-2020, là,
ouais.
C'est vrai que les gens investissent beaucoup le marché boursier, puis il y a eu des cycles, évidemment, il y a des phases et tout ça. Là, ce que tu remarques, c'est que les gens ont tendance à mettre leur argent ailleurs.
Mais pour moi, hein, les analyses de marché le démontrent avec des calculs, mais oui, l'argent va ailleurs. Dans le fond, on a transféré durant les derniers mois de l'argent ailleurs en voyant les marchés qui redonnaient le rendement, et là, les gens atteignent un certain plafond. Mais attends une minute, là, l'argent est encore en bourse. Et c'est d'ailleurs ce que je venais de dire. L'analyste, il dit... Michael Burry, excuse-moi, il dit, dans le fond, il dit, regardez ça, là. Tout le monde est devenu des investisseurs passifs. Il y a de plus en plus de gens dans des fonds indiciels. Donc, les gens achètent des actions via des fonds communs de placement ou des fonds indiciels. Mais la gestion active, c'est important. Parce que la gestion passive, comme les fonds indiciels, achètent parce qu'il y a des capitaux. Donc, les gens sont endettés, mais achètent quand même. Les entreprises sont endettées. Et là, on achète des actions d'entreprise par l'indice. Mais est-ce qu'il y a une analyse fondamentale derrière ça? Est-ce que derrière ces achats-là de fonds indiciels, il y a vraiment une analyse en disant « ça vaut ça ». Non, c'est des capitaux qui arrivent qui disent « je veux acheter l'indice, donc on achète l'indice ».
Mais la question, ça lui, veut dire quoi là, concrètement? Une fois qu'on
mais concrètement, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il dit « il y a comme une bulle de valeur dans la bourse ». Et ça, évidemment, c'est un seul homme. Mais si je te parle juste des gens qui amènent, disons, des regards obliques sur la réalité actuelle, c'est qu'il y a effectivement un sentiment qu'on a eu trop de beau temps.
Là, c'est comme une balloune on met de l'air, là, ça gonfle. Puis là, tu me dis quoi? C'est que ce monsieur-là pense que c'est sur le bord de péter?
Ben, éventuellement, mais là, si tu fais du market timing, d'habitude, tu perds, mais c'est comme un peu le soleil. Tu sais, quand on voit du soleil pendant 10 jours, on se dit, il va bien finir par pleuvoir. Ben, c'est un peu ça. En bourse, on a vu du soleil beaucoup trop longtemps. Alors, on se dit, il va bien finir par pleuvoir. Et c'est un peu ça. Puis là, on tente de trouver des raisons pourquoi il va pleuvoir. Et là, il y a des gens qui tentent d'être la personne qui aura prédit la correction, tu comprends? Donc, c'est facile de dire, il y aura une correction. Il y en a toujours. Mais la question, c'est savoir quand et quelle amplitude elle aura.
Un petit mot sur Couche-Tard, qui a présenté les résultats du premier trimestre.
Oui, tu sais, un dépanneur, c'est pas beaucoup d'argent. Hein. Seulement pour un trimestre, on parle seulement de 14 milliards de revenus américains. Évidemment, en bénéfice net, ça donne 539 millions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a moins de dépenses, moins coût des marchandises, hausse de la marge. Et moi, c'est l'actionnaire de Couchetard. L'actionnaire de Couchetard, là, entre 2009, mettons, puis 2015, il a multiplié son action par 10. Après ça, de 2015 à 2018, ça a été un peu moyen. Puis en 2019, ben, il a fait un rendement quand même de 21%. Mais ce qui est intéressant, c'est l'avenir de Couchetard, Paul. Si tu regardes les informations sectorielles, la note 10, là, là tu t'en vas voir les revenus liés au gaz, à l'essence, là, c'est les plus gros revenus. Ça représente un bon pourcentage. Tu sais, c'est 73% des ventes, mais c'est juste 44% de la marge. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est les marchandises qui représentent peut-être juste 25% des revenus, mais qui donnent 54% de la marge. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je t'amène chez Couchetard pour l'essence, mais tu vas acheter d'autres choses et c'est ça qui est payant. Et c'est pour ça que je vends de la slush aux enfants puis des trios de fast-food aux enfants. C'est pour les habituer à aller chez Couchetard. Mais la question, ce modèle-là des dépanneurs qui sont reliés à une station d'essence, pas ceux qui sont pas reliés, mais les stations qui sont reliées à une station d'essence, est-ce que les ventes de marchandises peuvent être perpétuelles? Est-ce qu'il y aura une baisse le jour où je serai plus obligé de mettre de l'essence dans ma voiture? Alors c'est ça le grand risque de Couchetard. Si tu ajoutes à ça, évidemment, le risque que les politiques augmentent le salaire minimum, qui est quand même le coût très contrôlé chez Couchetard. Si tu penses avoir un avenir comme commis chez Couchetard, il faut peut-être que tu regardes pour un autre emploi. C'est basé sur ta faible rémunération.
Merci, monsieur. Salut. 7h22.